Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, nous continuons nos dialogues. Nous avons longuement parlé de la parole de Dieu. Et dans le catéchisme, puisque ça nous sert de trame, l'article 141, je trouve, va nous aider à passer à quelque chose d'autre qui me tient à cœur, qui est la liturgie, qui est une œuvre importante de la vie du chrétien. L'article 141 du catéchisme de l'Église catholique cite « L'Église a toujours vénéré les divines Écritures » comme elle l'a fait pour le corps même du Seigneur.
C'est une citation du Dei Verbum de Vatican II, une grande constitution justement sur la parole de Dieu.
Oui, et cela poursuit ainsi, « Ces deux nourrissent et régissent toute la vie chrétienne », avec une citation du psaume 119, verset 105, ou 118, verset 105, selon les psautiers ou les bibles, « Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route ». Que d'ailleurs nous avons cité dans un précédent dialogue. L'Église a toujours vénéré les divines Écritures comme elle l'a fait pour le corps même du Seigneur. Le corps même du Seigneur qui nous renvoie à la célébration de la messe, ce lieu dans l'Eucharistie où le Christ lui-même se rend présent à nous, le Christ mort et ressuscité pour nous. Et cette phrase donc de la Constitution Dei Verbum me rappelle un peu on a usage de dire qu'il y a deux tables dans la liturgie de la messe, la table de l'Eucharistie et la table de la parole. Dans l'histoire de la messe, je pense qu'il est important de se dire ça a commencé. La messe, à strictement parler, ce serait l'Eucharistie aux origines. Mm-hmm. Puis s'est ajoutée la parole de Dieu. D'ailleurs, on en a d'une certaine façon la trace. Si on lit le disciple d'Emmaüs, le récit des disciples d'Emmaüs, on voit chez Saint Luc une présentation de un premier temps qui serait une liturgie de la parole. Jésus avec les deux disciples est en train de relire l'Écriture et de l'interpréter. Puis arrive le moment où Jésus va rompre le pain, il va être reconnu à la fraction du pain. Et donc la messe dans son histoire, sans entrer dans le détail, pour nous aujourd'hui, est une sorte, j'aime bien dire, c'est une sorte de mouvement, une histoire qui va passer par l'écoute de la parole de Dieu, pour aller à recevoir Dieu lui-même en son Christ mort et ressuscité pour nous.
Alors ça, on peut le dire aussi de tous les sacrements, puisque dans les Actes des Apôtres, on voit par exemple Philippe qui baptise l'eunuque de la reine de Candace. Par quoi commence-t-il ? Il commence par la parole de Dieu. Isaïe 53, sur lequel s'interroge le fameux Éthiopien en disant « Mais qu'est-ce que cela représente ? Qui cela concerne-t-il » Et à ce moment-là, Philippe fait l'annonce kérigmatique, mais il s'agit de Jésus mort et ressuscité pour nos péchés, qui est venu nous apporter le salut. Et à ce moment-là, il lui donne le baptême. On comprend très bien que les sacrements, c'est le prolongement, dans le fond, de la vie de Jésus. Que ce soit l'Eucharistie, que ce soit le baptême, être immergé dans sa mort et dans sa résurrection, c'est le baptême. L'Eucharistie, où il nous donne son corps et son sang pour multiplier la grâce qu'il nous a déjà donnée dans le baptême, ce sont des dons de sa présence, et cette présence de la parole de Dieu est déjà très grande. On peut parler d'une présence de la parole de Dieu, elle est ainsi très perceptible, mais elle va se faire comme quelque chose encore plus d'une présence réelle dans les sacrements. Elle va se perfectionner en quelque sorte dans ces présences que Jésus veut nous accorder pour nous soutenir dans ce chemin qui n'est jamais facile. La liturgie va être le grand lieu de la rencontre de notre Seigneur Jésus.
Dans les sacrements, entre autres, mais en tout cas de manière éminente, comme tu viens de le dire, nous entendons Jésus nous dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Jésus, Christ ressuscité, qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Celui que puisque c'est la fin de l'évangile selon saint Matthieu, au début de l'évangile, on lui donne un nom qu'il n'a jamais porté et pourtant qu'il est totalement l'Emmanuel, Dieu avec nous.
Dieu avec.
C'est vraiment, les sacrements sont l'expérience, nous confessons dans les sacrements l'incarnation, le fait que Jésus est incarné, est venu avec nous et reste avec nous.
Alors qu'est-ce que, frère Philippe, tu dirais, si on te demandait de définir la liturgie, le mot « liturgie », qu'est-ce qu'il te viendrait pour le communiquer à quelqu'un qui, finalement, peut être très étranger dans ce monde dans lequel nous vivons, où on écoute volontiers les informations, on est sur Internet, on fait tous les jours des gestes quotidiens, mais la liturgie ?
Généralement, quand je parle de la liturgie, parce qu'effectivement, on est appelé à le faire, certains, j'allais dire, aiment beaucoup la liturgie, mais ne s'interrogent pas toujours sur l'expérience dont il s'agit. D'abord, par le mot lui-même, dans son étymologie, le travail du peuple, l'œuvre du peuple. Mais j'aime bien dire que c'est pas l'œuvre du peuple vers son Dieu, qui se tourne vers son Dieu pour le louer, pour l'honorer. C'est aussi le travail de Dieu en son peuple, me semble-t-il.
Voilà, exactement, tu as tout à fait raison. Laïtos ergon, qui sont les deux mots qui composent le mot liturgie, peuvent se prendre soit dans un sens subjectif, l'œuvre qui émane du peuple de Dieu, soit dans un sens objectif, c'est Dieu qui œuvre pour nous. Et c'est ça la grande découverte de la liturgie chrétienne, c'est que on ne cherche plus, comme les païens, à attirer la bienveillance de Dieu sur nous en lui offrant quelques sacrifices d'animaux, quelques paroles, quelques prières, etc. Mais c'est Dieu qui vient au-devant de nous, qui veut nous rencontrer.
Il s'est penché sur son humble servante, voilà, dit la Vierge Marie.
Exactement.
Je trouve ça admirable.
Je ne
cherche pas à jouer des coudes pour me rapprocher de lui.
Il
se penche sur l'humble serviteur que je suis.
Et c'est le mouvement liturgique. C'est le mouvement donc extraordinaire que les pères de l'Église utilisent en disant que Dieu, dans le fond, se fait proche de nous, il se penche sur nous, avec bienveillance et il déroge en quelque sorte à sa place de souverain inaccessible. Il se fait celui qui ne retient pas son rang de condition divine, mais qui accepte de descendre dans notre misère, de descendre dans ce qui nous sépare de lui, et de le prendre sur lui, d'en porter le poids pour nous en libérer.
C'est fais référence là l'hymne aux Philippiens, ce qu'on appelle l'hymne aux Philippiens. Lui qui était de condition divine, Jésus, le Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Je trouve, ce que je trouve admirable ici, il a pris notre condition humaine, il s'est fait homme. Il faut que ce soit Dieu qui apprenne à l'homme ce que c'est qu'être un homme. Et je pense que la liturgie nous apprend à devenir des vrais hommes, des hommes tels que Dieu les fait être. Quand l'homme ne se laisse pas dévoyer par le péché, ne se laisse pas abîmer par le péché, retrouver notre dignité d'homme, notre vérité humaine.
Oui, et la liturgie donc est vraiment ce don gratuit de Dieu à l'homme, mais encore faut-il que l'homme réponde. Et c'est pour cela que nous avons des traditions, nous avons des rites qui nous sont transmis par nos pères dans la foi et qui font que si nous sommes dans un pays occidental, nous aurons plutôt le rite latin, si nous sommes dans un pays plus méditerranéen, nous aurons les rites orientaux, et que ces rites se sont développés à travers tout l'espace du monde, le cosmos en entier. Et c'est très beau de s'y rattacher, parce que ce n'est plus seulement nous tout seuls qui serions le face-à-face à Dieu, mais nous sommes le peuple de Dieu, un peuple sacerdotal, un peuple royal, un peuple prophétique. Dieu a voulu se faire lever au milieu des hommes et qu'il guide vers la Jérusalem céleste. Dans le fond, il y a un mouvement dans la liturgie qui nous élève vers cette liturgie céleste dont le guide et le pasteur, le grand maître de la vérité, mais le grand pasteur et le grand prêtre, qui est Jésus, qui nous guide vers cette Jérusalem céleste. On se sent aspiré à ce moment-là, et non plus seulement dans un désir de recevoir. Souvent, on voit de nos jours des personnes qui reprennent la forme liturgique de celui qui ouvre les mains pour recevoir quelque chose. Mais nos ancêtres, les premiers chrétiens, avaient beaucoup plus le mouvement de lever les mains en disant « Mais on se tourne vers celui qui est l'ineffable, qui est celui qui mène toute chose et qui voit déjà nos besoins. Donc nous n'avons même plus besoin de tendre les mains ouvertes vers celui qui est la providence totale, puisqu'il sait déjà, nous pouvons lever les mains vers le ciel et lui dire, tu sais tout, nous voulons seulement te louer, te bénir, t'adorer, te rendre grâce pour toutes tes merveilles.
Et ce geste que tu fais devant moi, les mains tournées vers le ciel, les mains élevées devant ça, c'est ce qu'on trouve sur des sarcophages des premiers temps de l'Église, dans l'art paléo-chrétien, c'est sarcophage. Il me semble que c'est aussi ce geste que le prêtre va faire dans la liturgie, c'est aussi le geste de Jésus sur la croix, les mains de Jésus sur la croix, me semble-t-il, c'est entrer dans cette attitude du Christ qui s'offre à Dieu pour le salut du monde.
Qui est offrande, car finalement, qu'est-ce que la liturgie? On pourrait faire cette première réponse. C'est une offrande, et c'est l'offrande de Jésus à son Père, et c'est l'invitation à chacun qui assiste d'une manière active à cette présentation de Jésus pour s'y intégrer à cette offrande, c'est-à-dire de nous offrons nous-mêmes dans l'offrande même du Christ pour remonter vers le Père.
Nous avons encore besoin de parler de liturgie, nous avons encore de quoi faire dans notre dialogue.
À tout bientôt.
Merci frère Edouard.
Merci.